Soigner l'expérience client, c'est déjà et avant tout éviter les points de friction, ce que l'on appelle également les pain points. En contact à interviewer, lors du French Forum de l'expérience client, quelques docteurs spécialistes de ces sujets. Comme dans le film MASH, ils ont leur franc-parler.
Through early morning fog I see visions of the things to be, the pains that are withheld for me. I realize and I can see.
Bonjour docteur Lionel Meyer.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur de Luxury Attitude, fondateur de LM Consulting, spécialiste du service haut de gamme et de la relation client. Et vous avez un point de vue singulier sur ce qui fonde la qualité du service, notamment dans le domaine du luxe, de l'hôtellerie, mais pas que.
Effectivement. Alors, Luxury Attitude, ça a été la première partie de ma vie. C'est celle qui m'a permis de rencontrer cette discipline, parce que j'aime bien utiliser le terme de discipline de l'expérience client. Suite à cette première partie de vie, qui a été formidable, j'en vis une deuxième, avec finalement une démarche un peu plus artisanale, un petit peu plus personnelle. Et c'est un vrai bonheur, parce que c'est un métier, c'est une discipline, c'est un univers qui est fondé sur l'humain et qui ne cesse de se réinventer. Alors, à mon goût, pas assez, mais malgré tout, il y a toujours de quoi faire, et c'est un sujet, j'ai envie de dire, quasiment sans fin.
Qu'est-ce qui, dans votre parcours, vous a conduit à détenir justement une expertise, à vous pencher sur ce sujet et à le théoriser, même l'expérience client en tant que telle?
Alors, d'abord, c'est de la surprise et de l'étonnement, ayant commencé par une activité de conseil et de formation dans le domaine de l'humain, que ce soit dans une relation commerciale, que ce soit dans une relation de service. Finalement, rien ne me prédestinait a priori à intervenir prioritairement dans le domaine du luxe. Mais la vie a fait que parmi nos premiers clients, nous avions des hôtels de luxe et on a été assez surpris, avec mon associé à l'époque qui était Eric Perret, on a été assez surpris de constater que l'humain était un peu absent, y compris dans l'hôtellerie de luxe. Alors on est à la fin des années 90, on a plein d'humains partout, mais ces humains, on leur explique qu'il ne faut surtout pas être trop humain. Il faut rester en distance, il faut avoir les mains dans le dos, il ne faut pas trop parler avec le client, il ne faut pas l'appeler par son nom, il ne faut pas trop sourire. Et donc nous, on est convaincus que le luxe est autre chose. Et c'est vrai que la suite nous a donné raison, parce qu'à partir des années 2000, il y a eu une prise de conscience dans le très haut luxe, puisqu'on a commencé dans les palaces, que finalement la clientèle avait changé et que ce n'était plus les grandes familles du 18, 19e siècle et du début du 20e siècle, mais c'était leurs petits-enfants. Leurs enfants avec d'autres attentes et avec une vision du luxe un peu décomplexée par rapport à ces codes un peu ancestraux et surannés. Et donc on a tout simplement posé un postulat, c'est qu'il fallait une dimension humaine dans le luxe. Et on a d'abord carrément trouvé le sigle, hein, c'est la dimension humaine du luxe. Et puis ensuite on a trouvé le nom de l'entreprise qui était Luxury Attitude. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé, d'abord dans les palaces, ensuite dans les marques de luxe. Et très rapidement au fil des années 2000-2010, c'est une discipline qui est devenue celle de l'expérience client et qui s'est généralisée vers d'abord le mass market et finalement des segments qui n'étaient plus du tout positionnés ni sur le premium ni sur le luxe. Et puis ensuite dans le B2B. Donc voilà, on a assisté, contribué modestement à la généralisation avec ses avantages et ses défauts de cette thématique de l'expérience client.
Docteur Lionel Meyer, une fois le diagnostic posé, quel remède vous appliquez pour soigner cette relation client, l'expérience client, qui parfois un petit peu délaissée?
Il y a un sujet de relation client et puis il y a un sujet d'expérience client. Si je pose un diagnostic, c'est que il y a beaucoup de déclarations, il y a beaucoup d'intentions, mais il n'y a pas forcément beaucoup de réalité. Et je pense que le premier diagnostic que je poserais, c'est que le sujet doit être positionné au plus haut niveau de l'entreprise. Ce n'est pas un sujet ou un sous-sujet du marketing, c'est un sujet à part entière et un sujet stratégique, parce que l'expérience client fait partie pleinement de l'offre d'une entreprise. Et tant qu'on ne le comprend pas, tant qu'on ne l'intègre pas et tant qu'on ne s'organise pas par rapport à ça, alors on fera de la cosmétique qui est très bien, mais on n'agira pas suffisamment en profondeur, suffisamment durablement et avec une suffisamment grande ambition. Donc par rapport au diagnostic, c'est d'abord poser le sujet au niveau stratégique.
si les malades sont dans le déni, ils ne souhaitent pas accepter ce diagnostic qui serait non relégable, puisque vous estimez qu'elle est au centre, cette expérience client.
Alors oui, et c'était déjà le cas à l'époque de Luxury Attitude, et c'est encore le cas maintenant que je travaille avec l'entreprise LM Consulting que je représente, c'est qu'on s'autorise le droit forcément de ne pas travailler et justement de ne pas être l'accompagnateur d'entreprises qui n'ont que des postures de façade. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Maintenant, je pense quand même que la majorité des dirigeants ont conscience de cette importance, mais peut-être pas de la transversalité de la problématique, du lien étroit qu'il y a entre l'expérience client, la culture d'entreprise et même le management interne et donc l'expérience collaborateur. Il y a beaucoup de pédagogie, comme dans la médecine. Il ne suffit pas simplement de guérir, de poser un diagnostic. Ça demande aussi peut-être des changements d'habitude, non pas alimentaires, mais d'habitude d'organisation, de prise de décision, des changements également d'état d'esprit. Donc il y a beaucoup de pédagogie au niveau de direction. Et puis il faut surtout très très vite, au-delà des constats, au-delà des grands principes, démontrer que ça fonctionne et être dans l'action. Et être en capacité d'activer des choses qui vont être perceptibles, à la fois au niveau du client, au niveau du business, encore plus aujourd'hui parce qu'il y a une recherche de ROI immédiate, mais également au niveau des collaborateurs. Et c'est vrai que quand on déploie une démarche de ce type-là, il y a un vent d'énergie, il y a quelque chose qui se passe dans l'entreprise et c'est absolument bénéfique au-delà du seul sujet, même s'il est central, de l'expérience client.
Une restructuration pleine et entière.
Alors, ça demande une introspection et de se rendre compte que l'expérience client et tout ce qu'elle suppose vient se placer dans de nombreux interstices de l'entreprise, les services informatiques, les RH, la supply chain, la production, la communication, le marketing, et que ça ne se limite pas finalement à l'interface client. Donc, je pense que forcément, à partir du moment où on a compris ça, ça a un impact très fort sur l'organisation. Et on s'aperçoit qu'il y a des entreprises, en fonction de leur culture, qui ont une culture très industrielle et qui doivent se transformer pour intégrer une culture client. J'ai eu la chance de travailler pour Air France, entreprise incroyable qui a fait un boulot phénoménal en matière d'expérience client ces dernières années. Pas forcément très heureux avec le contexte actuel, mais un des éléments marquants, c'est que au départ, les premiers dirigeants que nous avions rencontrés définissaient leur métier comme l'industrie du transport aérien. Et donc, on est dans une logique industrielle de gestion de flux, de gestion de flotte, d'intégration complète des notions de fiabilisation et de sécurité. Et finalement, l'expérience client, c'est le truc à part. Et c'est vrai que nous avons défini Air France avant tout comme une société de service. Parce que finalement, Air France, en assurant tout le reste, et en particulier la sécurité, qui est en soi également quelque part un élément de l'expérience client et du service, et notamment le sentiment de sécurité. Mais au-delà de ça, se définir comme une entreprise de service, c'est exactement la même démarche que j'ai eu la chance d'accompagner chez Nespresso France, qui, avec l'arrivée d'Arnaud Deschamps en 2008, a cessé de se considérer comme une filiale de distribution d'un grand groupe et d'une marque fantastique, pour se dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on est, nous, en France? Ben, on n'est rien d'autre qu'une société de service. Parce que finalement, nos produits, que ce soit les cafés, que ce soit les machines, même si on a une influence, finalement, ils nous viennent du HQ, ils nous viennent de la Suisse. Nous, ce qui nous appartient finalement, ou en tous les cas notre responsabilité, c'est vraiment la relation client. C'est vraiment le service. C'est vraiment l'expérience. Donc, on n'est pas une filiale de distribution. On est une société de service au service de ses clients. Et donc, pour répondre à votre question, on est bien forcément par des implications en matière de réorganisation, mais on est d'abord comment s'envisage l'entreprise et où l'entreprise place la relation client dans sa mission première.
En quoi la dimension humaine, l'analyse des sentiments, des émotions des clients facilite la guérison de ces entreprises et de cette même relation client ?
Alors, je pense qu'il faut intégrer l'idée que aujourd'hui, offrir un bon service, offrir un service fluide, simple, offrir de bons produits dans un monde ultra concurrentiel, ça n'est pas suffisant. Et que par ailleurs, que ce soit au niveau du produit ou au niveau des solutions, et notamment des solutions techniques, digitales, organisationnelles, c'est excessivement facilement copiable. Et tout le monde s'observe. L'humain et notamment au travers de la relation et de l'expérience, à cette particularité que finalement, c'est plus difficilement copiable parce que c'est plus incarné. C'est lié à beaucoup d'éléments comme la culture client. Il ne suffit pas de claquer des doigts pour engager 1000 collaborateurs dans une démarche client. Donc ça confère un avantage concurrentiel durable. Par ailleurs, ça a un impact considérable sur l'attachement à la marque. L'attachement du collaborateur lui-même qui contribue à ça et qui est fier de ce qu'il fait. Et c'est déjà un préalable, mais également l'attachement du client. Et à partir du moment où je suis attaché à une marque et que j'ai un sentiment pour la marque et pas simplement une marque qui répond à une nécessité, alors je suis dans une démarche de solidarité finalement avec cette marque. Dans les difficultés, et c'est pour ça que des clients avec lesquels j'ai su créer un lien va défendre le malade, puisque vous parlez de malade, auprès de son entourage, donc il se sent pleinement associé à cette marque, impliqué, faisant partie quelque part de cette marque. Donc il y a un lien humain à la marque et aux collaborateurs.
Du coup, ces collaborateurs, c'est quand même les premiers ambassadeurs, finalement.
Oui, oui, mais ça va même plus loin, parce que là, dans l'image peut-être de ceux qui nous écoutent, on pense aux collaborateurs qui sont des vendeurs, qui sont dans les boutiques, qui sont dans les trains, au contact du client. Mais finalement, n'importe quel collaborateur d'une entreprise, et plus l'entreprise est grande, plus ces personnes sont ambassadrices de la marque. C'est-à-dire que même dans leur comportement privé, si je sais que la personne qui dîne avec moi travaille à la SNCF, dans son comportement, dans ce qu'elle va dire, dans ce qu'elle va raconter, elle va me faire vivre un petit peu de l'expérience SNCF, et donc elle va être l'ambassadeur de cette marque. Et là encore, faut pas se tromper, on l'a fait peut-être soi-même, mais on l'a surtout beaucoup entendu, un collaborateur qui décrit dans son cercle familial, dans son cercle de proximité l'entreprise pour laquelle il travaille, ça crée des ravages. Et donc cet attachement et ce travail sur la relation humaine à la marque est excessivement important. J'ai récemment sur LinkedIn partagé une expérience et j'avais titré « Marque, rendez-nous fiers ». Et moi, en ce qui me concerne, je racontais mon lien à la Maïf. Alors Maïf, c'est le champion de l'expérience client en France.
Maïf, assureur militant ?
Maïf, assureur militant. Comme je raconte, je suis né avec la Maïf et j'étais client de la Maïf sans même le savoir puisque ma mère était enseignante et donc j'étais assuré par la Maïf alors que j'étais encore bébé. Et du jour où j'ai eu besoin de m'assurer pour la première fois, c'était pour une voiture, ben, je faisais déjà partie de la famille. Et depuis que je me sens ma part effectivement sociétaire et cliente, c'est pas tout à fait le même terme, je n'ai jamais eu rien à dire pour critiquer la relation que j'ai eue. Mais c'est une relation pas avec des personnes, ou pas que avec des personnes, c'est une relation avec une marque. Je suis fier de ce qu'elle raconte, je suis fier de ce qu'elle dit d'elle, je suis fier de la façon dont les collaborateurs m'accueillent, envisagent la relation client. Donc ce rapport émotionnel est lié à une expérience, à beaucoup de sincérité aussi, parce que, comme je disais tout à l'heure en introduction, il y a parfois de la posture, il y a parfois des annonces, il y a parfois des pubs qui se heurtent à la désillusion totale quand on est en relation avec ces marques. Et je crois que le travail sur l'expérience, c'est de rendre cohérent, finalement, le storytelling.
Les valeurs, l'identité ?
Alors, oui, les valeurs, l'identité, ça c'est vraiment le travail d'alignement qu'on doit faire, mais on parle beaucoup de storytelling des marques. Moi, je dis, aujourd'hui, ce qui compte, c'est le story sharing. C'est finalement ce que les clients partagent de leur expérience. Et on s'aperçoit qu'entre le storytelling et le story sharing, il peut y avoir un gap. D'où l'importance de travailler sur l'expérience, parce que le storytelling doit se traduire par une expérience à un moment donné. Sinon, c'est complètement fictif. Et cette expérience, c'est ce que va ressentir le client qu'il va ensuite partager. Donc moi, ma conviction profonde, c'est qu'il y a une chaîne de valeur très très forte entre ce que la marque dit d'elle, et là ce sont des postures et des intentions, mais ça cesse d'être des postures pour devenir une réalité dès lors qu'on a travaillé sur l'expérience et que cette expérience, elle est conforme à l'histoire racontée et elle est respectueuse du client. Et surtout, c'est là où on est dans l'expérience, le client a un lien qui se crée à la marque, a envie d'en parler, a envie de partager ce lien, et c'est là qu'on est dans le story sharing. Et avec les réseaux sociaux, le story sharing, c'est l'arme absolue du marketing et c'est une des résultances de l'expérience client.
On en revient en fait, on théorise, on met en application des choses, on conforte, mais il y a cette part dans cette expérience vécue, c'est l'authenticité qui va primer alors.
Alors, authenticité, cohérence, bon sens, et alors du fake, politique, du fait que, en tout genre, oui, les marques doivent considérer que, de prime abord, les clients, les consommateurs, leurs prospects ne leur fait pas confiance. Donc ils doivent d'abord gagner la confiance du public avant de pouvoir aller plus loin. Et la confiance, elle se gagne dans la cohérence, elle se gagne dans l'authenticité, dans la sincérité, dans la constance. Donc oui, il y a une question d'authenticité. Et l'authenticité, elle est d'autant plus importante pour des marques qui sont incarnées par des collaborateurs et pour lesquelles, dans la valeur ajoutée qu'achète le client, l'humain a une place très importante. Encore une fois, si j'achète de l'essence pour mettre dans mon véhicule, l'expérience est importante, mais c'est une expérience très fonctionnelle. Alors je peux la transformer en émotionnelle et je peux prendre la décision de mettre un pompiste. Mais si le pompiste, il est là juste pour servir à la place du client, au moins en France, ça peut être amusant, et c'est, le terme est un peu péjoratif, mais dans certains pays, et on l'accepte, mais en France, cette personne-là doit avoir un autre rôle que de simplement servir. Elle doit être dans la relation, elle doit être dans l'incarnation, finalement, de la marque. Donc, voilà, en tous les cas, mes convictions sur cette notion d'authenticité, d'incarnation, d'humain, d'expérience.
Docteur Lionel Meyer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'expérience client transformative ?
La thématique de l'expérience client, comme j'ai dit au départ, elle est au niveau de la direction générale, elle est au niveau de la vision de l'entreprise, de l'ambition de l'entreprise. Avant de parler d'expérience client transformative, je voudrais juste faire un parallèle avec la relation client transformative et la relation client. La relation client, c'est ce qui se passe en one-to-one, entre un client et un collaborateur, entre la marque et un client. Et je pense déjà, ma première conviction, c'est que la relation client doit être transformative. C'est-à-dire que dans chaque interaction, l'un des objectifs que doit avoir la marque, c'est de transformer l'état émotionnel du client. Ça veut dire que si j'appelle parce que je n'ai pas été livré, je peux avoir une dose de peur, entre guillemets, parce que j'ai besoin de ce qui est censé être livré. Je peux avoir une dose de colère parce que je n'ai pas été prévenu. Donc à un moment donné, la relation doit permettre, en plus de résoudre le problème, de prendre en charge mon état émotionnel et de le transformer avec cette charge émotionnelle entre guillemets négative pour la transformer en une charge émotionnelle positive. Et c'est pour ça que la gestion des réclamations est un enjeu tellement important pour les entreprises, quelles que soient les... parce que c'est des sources d'enchantement incroyables. Et donc, mon premier point de départ sur lequel je travaille beaucoup sur des actions de formation, c'est comment donner les compétences aux collaborateurs, au contact du client, pour qu'ils prennent conscience que leur rôle, c'est de transformer l'état émotionnel. Et si l'état émotionnel du client est positif parce qu'il rentre dans une boutique, il a envie, il est content et il n'a pas de problème, bah déjà, ma première responsabilité, ce n'est pas de désillusionner, je ne sais pas si le terme se dit, peu importe. Il faudra demander à un autre docteur si ça se dit. Mais en tous les cas, le but déjà, c'est de le maintenir dans cet état émotionnel très positif, cette envie, et même de le développer. Donc ça, c'est le premier élément. La notion de transformation est pour moi directement associée à cette notion de relation client et plus globalement à cette notion d'expérience client. Alors quand on place le sujet au plus haut niveau, il faut que l'entreprise se pose la question, est-ce que l'expérience que j'ai imaginée est fondamentalement capable de transformer l'état émotionnel du client ? Et non pas pour tendre vers de la satisfaction, parce que la satisfaction c'est juste encéphalogramme plat. J'ai reçu ce que j'avais demandé, payé et ce qu'on m'avait promis. Donc, la première logique de l'expérience client transformative, c'est d'aller transformer l'état du client vers la recherche d'un état émotionnel positif et d'un enchantement. Donc ça, c'est le premier élément qui est un peu structurant. Et donc, on peut avoir une recherche sur une expérience client existante pour aller chercher justement à ajouter dans des moments forts de la relation, des pics émotionnels. Et là, on parle de design d'expérience, on parle de toutes ces choses. Après, l'autre niveau de réflexion sur l'expérience transformative, c'est l'ambition qu'on met à cette expérience. Et cette idée que l'expérience client, aujourd'hui, il y a plus de 100 000 personnes qui ont le terme d'expérience client ou de customer experience dans leur titre sur LinkedIn, dans le monde. Un peu plus de 3 000 en France. Et je n'ai pas intégré relation client et tout le reste. Et vendeurs. Mais donc c'est un nombre de personnes considérables qui travaillent sur ce sujet. Et pour moi, j'ai le sentiment malgré tout que la majorité de ceux qui travaillent sur le sujet n'ont qu'un but, c'est l'amélioration et la correction. vers plus de simplicité, vers moins de bugs, vers plus de régularité. Or, pour moi, l'expérience client, là, on parle finalement plus de service. L'expérience client, si elle est dans la recherche de l'émotion, elle doit créer un avant et un après. Et il y a des entreprises incroyables qui sont dans cette recherche de la transformation fondamentale de l'expérience client sur un marché. Alors, on critique Uber, mais c'est vrai que Uber, sur le marché des taxis, est parti d'un problème client et a fait finalement un irritant, un enchantant. Et ça, c'est un élément hyper important et structurant de l'expérience. C'est comment faire qu'à un moment donné, je transforme suffisamment l'existant pour que ce qui est peut-être pour le client aujourd'hui, du point de vue de certains concurrents, des irritants, moi je trouve la manière de changer la façon de faire pour que ça devienne un enchantant. Et donc l'ambition, c'est vraiment transformer. Quand à un moment donné, Nespresso arrive, alors qu'avant, on pouvait difficilement se faire un café à la maison, il fallait qu'on prenne des cafés en grains ou moulus, qu'on prenne une petite cuillère, qu'on tasse, qu'on mette dedans, et on n'avait qu'un café, et que Nespresso arrive avec 20 cafés, avec un système simple, propre, avec une expérience d'achat hors du commun. Pour ceux qui ont été rue de Prony au début à Paris, on appuyait sur un bouton, on se demandait si on était à la bonne adresse, on montait des marches et on était dans un club privé, vous aviez l'impression d'être la personne la plus importante. Donc il y a une révolution vraiment de l'expérience et ça a transformé la vie des gens. Donc moi je suis convaincu que, et en particulier quand on est un leader sur son marché, même si in fine on ne changera et on ne transformera que 10%, l'objectif c'est la transformation. Et c'est pour ça que ce sur quoi je prends la parole aujourd'hui, c'est qu'il faut de la recherche et du développement en matière d'expérience client, et notamment d'expérience client transformative. Pas simplement d'un point de vue technologique, mais d'un point de vue vécu client. Le point de départ, c'est le vécu du client. On peut prendre Steve Jobs, on peut prendre Gérard Blitz qui a créé le Club Med. Des gens qui ont vraiment transformé finalement leur industrie, ce sont des gens qui avaient d'abord une utopie qui est ensuite devenue réaliste, mais une utopie par rapport à ce qu'ils voulaient faire vivre au client. Et donc l'expérience client transformative, c'est du point de vue du client avant d'être du point de vue de l'entreprise. J'ai envie de dire hors contrainte, parce qu'il sera bien temps de confronter cet idéal aux contraintes après, de se dire finalement, qu'est-ce qu'il est possible de faire et quels en seraient les bénéfices.
Et non pas aussi aux dépens peut-être de certains salariés comme Uber, il y a des perdants aussi dans cette affaire.
Alors, c'est un sujet qui est excessivement important, je parlais tout à l'heure d'expérience collaborateur. Moi je crois que l'entreprise, elle doit se poser la question de pourquoi elle investit dans l'humain. Est-ce qu'elle le fait par choix ou est-ce qu'elle le fait par nécessité ? Uber, on le sait très bien, n'a aucune intention de conserver des chauffeurs. Et ils investissent pour développer le véhicule autonome. Donc aujourd'hui, les chauffeurs ne sont que des outils. Ils sont là par nécessité. Et ils sont condamnés dans le business model, donc ils s'en foutent. Après, peut-être qu'Uber conservera, même avec les voitures autonomes, un positionnement sur certains véhicules avec des chauffeurs. Mais forcément que la qualité qu'aura ce chauffeur, ce ne sera pas une qualité simplement de conduite, ce sera une qualité qui ira au-delà. Le cas de Uber pose la question de plein d'entreprises. Quand on est dans la grande distribution, moi mes caissières, je les garde. Pourquoi ? Je les garde parce qu'elles font partie historiquement de l'entreprise, et puis parce que je les aime bien, et puis parce que je ne suis pas un monstre. Ça, c'est déjà pas mal, parce que c'est une vision un peu paternaliste des choses. Mais est-ce que je les garde parce que j'ai pas encore la réponse technologique pour m'en passer ? Ou est-ce que je les garde parce que je considère qu'au même titre que le boucher qui est derrière son étal, que le poissonnier, le fromager, ce sont des gens qui créent le lien. Et à partir de ce moment-là, moi, mon travail, c'est d'offrir le choix. Le choix d'un paiement automatisé, le choix d'un paiement aux bornes, et puis le choix de l'expérience humaine, avec des collaborateurs dont la valeur ajoutée dépasse la fonctionnalité que peut très bien prendre la machine. Et donc là, on investit dans la relation.
Et dans les soft skills ?
Et effectivement, aujourd'hui, ça pose la question de pourquoi j'investis dans l'humain ? Si j'investis dans l'humain pour autre chose que de la nécessité, c'est pour la valeur ajoutée humaine, parce que ce sont mes ambassadeurs, c'est ceux qui incarnent ce que je pense devoir être dans la relation client. Et à partir de ce moment-là, je mise sur la relation. Et si je mise sur la relation, je recrute des personnes ou je fais évoluer des personnes qui sont déjà dans l'entreprise dans leur excellence relationnelle. Et alors là, on parle de soft skills. Et plus simplement, ce sont des gens qui sont à l'aise avec les autres, comme on pouvait le faire. Est-ce que vous aimez les autres ? Non, j'aime pas les autres. Bien sûr qu'ils vont vous dire qu'ils aiment les autres. On va pas recruter des psychopathes qui ont envie de tuer tout le monde. Donc, cette vision qui consiste à dire, ben, je vais embaucher des personnes si en plus elles aiment les gens, c'est plutôt... Non, c'est une compétence. Donc, je vais aller chercher si les personnes que je recrute ont cette compétence et je vais surtout me donner les moyens de la développer. Et moi, ma conviction, c'est que les soft skills peuvent être développés. Mais là, par rapport à des compétences techniques qui sont tangibles, qui sont subjectives, c'est une autre forme de pédagogie, beaucoup plus basée sur l'usage, beaucoup plus basée sur du coaching et beaucoup plus basée sur un management qui est un management sur l'envie, sur le développement de l'individu et pas sur la seule performance ou la seule productivité. Or, et c'est le cas des chauffeurs Uber, qui sont leurs propres patrons, dans beaucoup d'organisations et d'écosystèmes, les gens qui sont au contact du client sont managés à 90% sur des logiques de productivité parce que ce sont des centres de coûts. Donc, à un moment donné, il faut qu'ils soient avant tout productifs. Et donc, leur valeur ajoutée, qui n'est pas quantifiable, est sous-exploitée, sous-estimée dans l'entreprise.
Ce qui pose la question d'objectiver ces principes.
Ce qui pose la question d'objectiver effectivement ces éléments-là, et l'intelligence artificielle et les outils permettent justement, en écoutant la voix du client, d'avoir une finesse sur des masses importantes qui permettent de savoir si effectivement, entre l'histoire que j'ai racontée, donc le storytelling, l'histoire que j'ai voulu faire vivre, le story living, l'histoire qui a été vécue, le story feeling, eh ben on est en phase.
Et le story sharing.
Et effectivement, j'écoute ensuite ce qui ressort de mon client après ce qu'il a vécu, ce qu'il a ressenti, et je suis capable de contrôler si la chaîne est cohérente. Entre le message envoyé, l'expérience qui a été souhaitée, l'expérience qui a été vécue et l'expérience qui a été retranscrite par le client dans son entourage, dans les médias sociaux, je suis capable d'objectiver un petit peu ces choses-là, en tous les cas d'avoir des éléments de mesure et de suivi de tout ça. Sachant, et c'est un des éléments qui est effectivement très très important, c'est que l'humain, dans cette évolution de la relation client et surtout avec l'intégration du digital, doit rester en haut de la pyramide de la création de valeur. Et notamment de la création de valeur émotionnelle et relationnelle. Ça suppose, malgré tout ce qu'on a pu imaginer au plus haut niveau de l'entreprise, avec les docteurs ou consultants, avec les sociétés qui monitoring, qui font tout ce qu'il faut, en fait, l'ultime pouvoir, c'est le collaborateur qu'il a entre les mains. C'est son talent, c'est ce qu'il est. Et là aussi, on a commencé ce podcast en parlant de codes un peu désuets, un peu rigides qu'avait le luxe à une époque. Je pense qu'aujourd'hui, ne serait-ce que pour attirer des jeunes, et pas que des jeunes dans des métiers de relations clients et de services, pour leur permettre de s'épanouir, il faut un peu plus reconnaître ce qu'ils sont intrinsèquement, et même s'ils ont des tatouages, sans que ce soit dans l'excès, parce que bien évidemment... Et donc, il va falloir aller chercher des talents, des personnalités. Moi, c'est ce que j'appelle le « serve as you are ». C'est-à-dire que moi, la promesse que je fais aux collaborateurs, ce que je pourrais faire, c'était une entreprise qui recrute, c'est dans ce que je vous demande d'être vous-même, dans la relation client. Et je pense que ce que vous êtes a de la valeur. Et je vous laisserai l'exprimer dans un cadre, avec des possibilités. Et même si vous ne correspondez pas nécessairement à des stéréotypes qui pouvaient être en vigueur il y a quelques années. Et ça, je crois que c'est excessivement important. Parce que si on veut que l'humain, et notamment parce qu'on lui en demande beaucoup et on lui en demandera beaucoup plus demain en termes de compétences, parce que les clients sont hyper informés, ils croient tout savoir, donc on voudra des gens ultra compétents, on voudra des gens qui sachent interagir, y compris dans des moments difficiles, on voudra des gens qui sont capables de résoudre, de comprendre des situations complexes, de résoudre des problèmes complexes, de transformer l'état émotionnel en apportant de la valeur émotionnelle et relationnelle. Voilà, c'est des surhommes. Ben, ces surhommes, on a une chance de les avoir si...
Et des surfemmes ?
Oui, pardonnez-moi, bien évidemment, des surfemmes, des surhommes au sens générique. Mais on a une chance de pouvoir rendre ça possible, même si certains me qualifieront d'utopiste, et je l'assume, utopiste mais réaliste, si ces personnes-là, on leur donne la chance d'être eux-mêmes. Et les clients adorent.
Est-ce qu'il n'y a pas pas là un sentiment de décalage entre la société, finalement, dans ses codes, dans les tenues vestimentaires, vous parliez de tatouages, etc., et le fait que ce soit pas nécessairement représenté dans certains secteurs d'activité, où il y a parfois un défaut de représentativité?
Alors, on parlait effectivement d'authenticité tout à l'heure. Si l'image que je renvoie de mes valeurs humaines, par exemple, au sein d'une entreprise, on parlait d'Uber tout à l'heure, et que ce que je renvoie de la façon dont j'envisage les gens qui travaillent pour moi n'est pas en phase avec l'évolution de la société. Alors on parle de RSE, c'est du droit, mais les clients, ils ne parlent pas de RSE. C'est qu'ils ont l'impression qu'ils montent dans une voiture dont la personne n'est pas respectée. Et donc à partir de ce moment-là, peut-être que j'irai vers une autre société. Donc je pense qu'il y a un sujet tout simplement d'authenticité, de sincérité. Et l'authenticité fait qu'à un moment donné, dans le service, je dois trouver des vrais gens. Et des gens que j'apprécie pour ce qu'ils sont. Parce que si je ne veux pas des vrais gens, mettez-moi une solution pour que je me débrouille tout seul, que je fasse les choses moi-même, ou que la technologie le fasse. Mais si je vais vers les gens, c'est que je veux des gens.
Faut prendre le risque alors?
Je pense que le risque, ce serait de ne pas le comprendre et de rester dans les codes précédents et de chercher à uniformiser. Attention, parce que là encore, ça peut être perçu par certains des personnes qui écoutent ça comme un peu théorique, mais il faut quand même malgré tout jongler, parce que je vais prendre l'exemple. À un moment donné, on demande quand même à un collaborateur de faire partie, je prends une image, d'une troupe de théâtre. Il y a un décor, il y a une promesse qui a été faite au public, une histoire que le public s'attend à voir. Il y a peut-être des extraits qu'il a vus la veille, il y a des commentaires clients, spectateurs qui l'ont amené à venir. Donc à un moment donné, l'acteur, il va devoir quand même rentrer dans un cadre. Mais l'acteur sera perçu comme génial lorsque dans ce cadre-là, et il faut que le cadre soit suffisamment bien fait pour qu'il puisse s'exprimer. Et repensez à des pièces de spectacle, des pièces de théâtre ou des spectacles que vous avez été, les moments les plus appréciés sont des moments d'improvisation, sont des moments de connivence, sont des moments de personnalisation du spectacle avec la ville dans laquelle on est. Aujourd'hui, notamment les personnes qui font du stand-up, qui viennent de l'impro, sont excessivement bons là-dedans. Et ils cartonnent. Eh bien, le service, c'est pareil. On ne peut pas tout avoir prévu. On ne peut pas tout avoir imaginé. Mais par contre, il ne faut jamais perdre de vue pourquoi les gens viennent. Et les gens viennent pour une promesse qui leur a été faite, pour un story sharing qui leur racontait une histoire. Donc moi, je vais être le garant quand même de délivrer cette histoire. Mais je vais devoir ajouter à cette très belle histoire mon talent d'improvisation à l'instant T, ma capacité à personnaliser, mes émotions, ce que je suis. Aujourd'hui, parce que ce que je suis aujourd'hui n'est peut-être pas non plus ce que je serai demain. Donc c'est ça qui est magique. Et ça suppose de la confiance. Et c'est pas si évident parce qu'on vient de dizaines d'années où finalement l'humain est rentré dans des process industriels. J'utilise un terme qui est peut-être un petit peu dur, mais c'est vrai que beaucoup de collaborateurs dans le service, au contact du public, sont un peu perçus par la société, par les entreprises, par eux-mêmes, comme les ouvriers spécialisés du 19e siècle et du 20e siècle. Et on l'a vu avec le Covid, la première ligne, malheureusement ça n'a pas forcément duré, on a plus que besoin de ces personnes-là. Elles nous font du bien. C'est essentiel que de les regarder différemment, de leur apprendre également à ces personnes à se voir différemment, à leur donner aussi plus d'estime d'elles-mêmes en mettant en valeur justement ce qu'elles apportent, de les reconsidérer également financièrement. C'est un vaste sujet, mais le haut de la pyramide de valeur dans l'expérience client, c'est l'humain. Donc donnons-lui cette place, reconnaissons-lui cette place. Et pour le reste, quand il n'y a pas de valeur humaine, moi j'ai pas de problème à dire, et quand la valeur humaine n'a pas de sens, j'ai pas de problème à dire qu'il vaut peut-être mieux remplacer cette présence humaine par de la technologie. Parce que personne ne sera heureux de la situation. Certainement pas la personne qui aura ce travail-là et vraisemblablement pas le client qui vivra ou subira le service qui sera rendu.
Et privilégier d'autres champs d'action?
Et privilégier effectivement tous les champs d'action, donc étudier tous les champs du possible de l'expérience client. On parle beaucoup de symétrie des attentions. Moi je parle de cohérence tout simplement. On ne peut pas demander autant à des collaborateurs de donner alors que finalement ils reçoivent relativement peu. Et je pense que le carburant que doit avoir quelqu'un qui donne de l'humain, qui est dans la relation, c'est de la relation. Ce que je veux dire par là, c'est que la relation du client est la première source pour que ce collaborateur se nourrisse et se sente utile, important, mais il faut aussi qu'il soit nourri par de l'humain en interne dans l'entreprise.
Docteur Lionel Meyer, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, en portant cette parole, d'être entendu ?
Alors, oui, parce que il y a des gens qui me suivent, il y a des gens qui me disent régulièrement que ce que je fais est utile. Moi, j'ai surtout l'impression de faire preuve de bon sens. Après, il ne faut pas se leurrer non plus, il y a des impératifs économiques très court-termistes, et encore plus en ce moment. Il y a des actionnaires. Et effectivement, ça demande du temps de transformer la culture d'une entreprise. On peut avoir des résultats immédiats, mais plus ils seront immédiats et rapides, plus on doit se poser la question de leur durabilité et de leur capacité à être inscrits dans le temps. Et donc, finalement, on a parfois dans les entreprises une vague sur l'expérience client, et puis l'année suivante, on passe tout à son contraire. Donc oui, forcément, on est entendu parce que c'est l'air du temps, parce que tout le monde dit, peut-être avec des mots différents, avec une sensibilité différente, un petit peu la même chose. Après, je prends cette image-là et il y a d'énormes... Que ce soit les dirigeants, que ce soit les entreprises, ils ont d'énormes élastiques dans le dos qui les tirent vers le passé. Et il faut beaucoup d'énergie pour tirer sur l'élastique, pour faire quelques pas dans une direction. Et au moindre relâchement, non seulement on repart en arrière, mais il y a l'effet ressort qui fait que l'atterrissage est compliqué. Et je le dis souvent, si vous y allez, allez-y pour longtemps. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Parce que vos collaborateurs, ils en ont connu d'autres. Ils n'ont pas attendu que vous soyez le dirigeant. Et ils peuvent vous reciter, notamment pour les plus anciens, toutes les vagues où on leur a dit « le client, le client, le client ». Et donc à un moment donné, là aussi, il faut gagner en crédibilité, il faut faire ses preuves, il faut gagner en authenticité, en sincérité, et les collaborateurs vous suivront. Et si les collaborateurs vous suivent, les clients le vivront. Et donc, ça demande de l'effort, ça demande un engagement, ça demande de la conviction. Et pas simplement comme on achète un logiciel, un choix et une décision d'investissement. Et le dirigeant qui prend cette décision-là, il va devoir être au front. Si je suis un dirigeant et que je demande de changer le système de reconnaissance vocale, de je ne sais pas quoi, ok, la décision est prise, ça y est, c'est dans les tuyaux, ça c'est fait, j'ai coché. L'expérience client, c'est jamais coché. C'est dans l'agenda du manager, dans l'agenda des directeurs, dans l'agenda du patron, non-stop.
Docteur Lionel Meyer, est-ce que vous avez vu le film MASH, qui a reçu une palme d'or à Cannes en 1970 ?
Je vais être sincère, non.
Pour mémoire, nous sommes en pleine guerre de Corée, ce sont des médecins qui interviennent sur le front, des médecins qui ont plutôt des méthodes non conformistes. Est-ce que vous, dans votre approche métier, dans votre domaine d'expertise, qui est l'expérience client, il faille accepter de faire ses pas de côté en permanence, voire d'être non conformiste ?
J'espère, dans les réponses que j'ai apportées à vos questions, avoir démontré qu'effectivement, le pas de côté était nécessaire. C'est pas simplement out of the box, c'est pas simplement je me mets dans une salle, il y a des gadgets, il y a des balles rondes, des trucs de machin. C'est à un moment donné, quand je parle de recherche et développement, il faut rechercher tout azimut, il faut développer tout azimut avant de déployer à grande échelle. Donc il faut aller explorer des territoires, il faut aborder des méthodes un petit peu différentes, il faut faire preuve de créativité, il faut se remettre en question. Ce qui n'a pas marché il y a 3 ans peut marcher aujourd'hui. Donc oui, ça, bien sûr qu'il faut faire des pas de côté. Après, il y a quand même quelques méthodes. Ça fait des années que je le dis, mais transformer un irritant en enchantant, c'est pas juste corriger un. C'est saisir l'opportunité de prendre le sujet qui pourrit le plus la vie de vos clients et de le traiter une bonne fois pour toutes pour que ce sujet-là devienne sa première source d'enchantement. Vous voyez bien que pour arriver à ce challenge, c'est une posture que je dois avoir. C'est plus qu'un pas de côté, parce que si je commence à écouter les gens qui, dans l'entreprise, sont concernés par l'irritant, la supply chain, la SI, la RH, le machin et compagnie, on va, dès le départ, partir des contraintes au lieu de partir de l'ambition. Et donc, ça, c'est un élément. Et il y en a plein comme ça. Et donc, je pense qu'il y a des méthodes, il y a des approches, il y a des mindsets. Il y a beaucoup de curiosité à avoir. Et c'est comme ça qu'on réussira. Et puis aussi, d'avoir une attitude un petit peu moins suiveuse. d'être dans une recherche de leadership. Parce qu'aujourd'hui, les grands leaders sont toujours des gens, la plupart du temps, qui ont disrupté leur marché parce que ceux qui étaient présents n'ont pas eu le courage de le faire, ne se sont pas autorisés à le faire, sont partis de leurs contraintes ou étaient pas assez agiles pour le faire et se sont découragés. Donc oui, des pas de côté, oui, des méthodes. Et puis, je vais aussi dire une chose, et je pense que la confiance, elle est là aussi. Dans la relation client, dans le one-to-one avec le client, quelqu'un qui est au contact du client doit savoir naviguer en dessous du radar. Pas pour faire des choses illégales. Pas pour aller à l'encontre des intérêts ni du client, ni de l'entreprise. Mais pour s'autoriser des choses. Et ça aussi, c'est savoir faire un pas de côté. Par rapport à une situation qui est tracée, qui a été identifiée. Donc, j'ai envie de dire, le pas de côté, il faut être capable de le faire au plus haut niveau de l'entreprise, dans la vision de l'expérience, et pour pouvoir finalement tendre vers l'expérience client transformative. Mais la relation client transformative, c'est aussi savoir faire un pas de côté. C'est l'impro dont je parlais dans un spectacle. Être capable de risquer de sortir de son fil conducteur pour jouer d'une situation, être ouvert d'esprit pour pouvoir le faire et saisir l'opportunité, et ben c'est ça, être capable de faire un pas de côté. Et surtout, c'est d'être capable de prendre de la satisfaction, du plaisir, et puis de s'autoriser à le faire. Il y a malheureusement dans les entreprises beaucoup de collaborateurs qui sont managés par la peur. Et par de fait de cette peur, l'envie de ne pas faire de vagues, de ne pas être celui qui... Et donc, derrière ce pas de côté, il y a une forme de recherche d'audace. Et d'ailleurs, il n'est pas rare dans les piliers que l'on met en œuvre, notamment dans la culture d'entreprise, même dans les soft skills, et qu'on travaille avec nos clients, c'est l'audace fait souvent partie de ça. Parce qu'on ne s'autorise à rien. Oui, pas de côté. En toute conscience, avec subtilité. Pas le pas de côté pour le pas de côté, nécessairement.
Merci infiniment, docteur Lionel Meyer.
Merci beaucoup pour cette écoute.
Through early morning fog I see visions of the things to be, the pains that are withheld for me. I realize and I can see that suicide is painful.